Democracy.
Democracy. Démocratie.
La France, c'est ce que l'on appelle une république démocratique.
Où est la démocratie, mes chers collègues?
Non, la France n'est plus une démocratie, là, on fait tout semblant.
C'est, encore une fois, surtout un régime en perdition.
Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil.
Révolte! La République, c'est moi!
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai envie de péter un abribus tous les jours.
Je pense que nous sommes en train de traverser la crise démocratique la plus grave que la France ait connue.
Une réforme des retraites maintenue envers et contre tous.
Un déferlement de 49-3.
La chaise vide de Matignon pendant la trêve olympique.
La France, pays des droits de l'homme, est qualifiée de démocratie défaillante.
Mais qu'en est-il vraiment?
Les gouvernements cultivent la politique de l'autruche face aux mobilisations.
Pendant que la répression policière étouffe la voix du peuple.
Contraints de trouver d'autres modes d'action, les militants écologistes désobéissent pour se faire entendre.
La défiance des citoyens envers ses représentants fait la courte échelle aux théories du complot.
Le monde politique, qui dresse barrières et obstacles aux femmes, demeure un royaume masculin.
Alors, manifester sert-il encore à quelque chose?
La désobéissance civile est-elle le dernier recours du peuple pour sauver la planète?
Une démocratie sans maintien de l'ordre est-elle imaginable?
Comment le complotisme attise-t-il le chaos politique?
Pourquoi les institutions démocratiques ferment-elles leurs portes aux femmes?
Immersion dans les entrailles de notre démocratie pour en comprendre les dérives.
Démocrache, une série documentaire en 5 épisodes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de Sciences Po Rennes.
Dans notre pays des droits de l'homme, manifester a été hissé au rang de liberté fondamentale. Ce principe est indissociable de notre démocratie, mais il reste soumis à une limite, le respect de l'ordre public. Un principe suprême qui assure les libertés fondamentales de chaque individu tout en garantissant la sécurité collective. Maintenir l'ordre public, c'est un difficile numéro d'équilibriste dont dépend la démocratie. En bref, c'est un arbitrage entre liberté et sécurité.
En manifestation, c'est la force publique qui gère cette mission. Mais en une décennie, les méthodes de maintien de l'ordre ont radicalement changé en France. Ces dernières années, les mouvements sociaux ont donné lieu à des affrontements d'une rare intensité entre police et manifestants. Ce maintien de l'ordre questionne. Il a même attiré l'œil d'Amnesty International, du Conseil de l'Europe et de l'ONU, inquiets d'un manque de retenue dans l'usage de la force.
Alors qu'entend-on par maintien de l'ordre?
Comment s'applique-t-il aujourd'hui?
Quelles conséquences sur nos libertés?
Ces méthodes ont-elles leur place dans une démocratie?
Au contraire, peut-on imaginer notre régime démocratique sans maintien de l'ordre?
Que la force de l'ordre soit avec toi, un épisode de Zoé dit raison, Gilles Martel et Nicolas Thomas.
S'il y a bien une ville où les habitants savent user de leur droit de manifester, c'est Rennes. Et ça tombe bien, c'est ici que Canal B est implanté. Il n'y a pas un appel à descendre dans la rue qui ait été manqué. Gilets jaunes ?
À Rennes, la manifestation avait été interdite, mais les gilets jaunes ne voulaient pas manquer leur rendez-vous du samedi. Dès 14h, ils sont donc quelques dizaines rassemblés place de la République. Le centre-ville est bouclé par les forces de l'ordre nombreuses.
Réforme des retraites.
Nouveau heurt à Rennes, en France, ce samedi lors d'une manifestation non autorisée contre la réforme des retraites. Moins d'une demi-heure après le départ du cortège, la situation s'est tendue. Contestataires et forces de l'ordre se sont violemment affrontés.
Révolte urbaine après la mort de Naël.
Les émeutes commencent à faire tache d'huile et s'étendent à toute la France.
Il y a quand même une longue histoire de mobilisation sociale à Rennes et même en Bretagne, notamment à travers les luttes syndicales et étudiantes qui ont fait de Rennes une ville dont on attend que les manifestations soient effectivement d'ampleur sur un certain nombre de sujets quand des lois sortent.
Lui, c'est Marco. Si vous êtes habitué des manifestations rennaises, vous l'avez peut-être déjà croisé avec sa collègue Melwen. Ils portent des chasubles blancs et se tiennent souvent à l'écart des cortèges. Ces deux étudiants sont bénévoles à l'ORLIB, l'Observatoire Rennais des Libertés Publiques. Créé en 2020, ce collectif d'associations et syndicats documente les atteintes aux libertés publiques et individuelles en analysant des données recueillies sur le terrain. Nous les avons rencontrés entre 2 heures de cours pour discuter maintien de l'ordre à Rennes.
On pourrait dire qu'on est dans des stratégies qui ont évolué. Depuis 2016, on peut parler d'une forme de bunkerisation du centre-ville actuel. En fait, on se rend bien compte que les parcours de manifestation ont évolué depuis quelques années. Et maintenant, on est sur un parcours qui est très typique, et qui contournent le centre-ville, qui n'y passent absolument pas, et avec des barrages et des systèmes filtrants systématiques en marge des manifestations, ce qui ne se faisait pas forcément avant 2016, justement.
Marco parle de 2016 comme d'un tournant. Mais un petit récap historique ne serait pas de refus pour tout comprendre. Ce moment clé nous ramène aux grandes manifestations contre la loi El Khomri, ou loi travail, portée par le gouvernement Valls. L'idée, rendre le droit du travail plus flexible pour booster la compétitivité des entreprises et créer de l'emploi. Mais les Français n'adhèrent pas. Le 9 mars 2016, syndicalistes, intellectuels, ouvriers et étudiants se mobilisent massivement. Ce sera le coup d'envoi de 6 mois de protestations qui vont chambouler les codes des manifestations. Hors du cadre syndical traditionnel, émerge alors le fameux cortège de tête, et avec lui, une répression qui marquera les esprits. Les confrontations entre forces de l'ordre et manifestants en début de rassemblement sont encore d'actualité. Marco se souvient d'un exemple rennais.
Je ne sais plus quelle année c'était exactement, je crois que c'était 2022 ou 2023. Il y avait une manifestation qui partait de Place de Bretagne, et où en fait on a eu un usage de lacrymogène et une charge avant même que la manifestation parte.
Ce constat les inquiète.
Évidemment qu'il faut qu'il y ait un ordre public, mais l'équilibre entre cet ordre public nécessaire et nos libertés individuelles peut être mis à mal effectivement par toutes ces pratiques qui sortent dans un certain nombre de cadres absolument essentiels au final dans une société démocratique.
Et puis du point de vue du droit, le policier doit être exemplaire. C'est-à-dire que normalement, juridiquement, tout manquement qu'il commet doit être plus sévèrement puni que celui que le simple citoyen commet, parce qu'il a ce devoir de montrer la bonne conduite, quoi. Et en fait, ce qui se constate dans les tribunaux, c'est que c'est l'inverse qui se produit. Il y a un livre qui en parle très bien, c'est « L'État hors la loi » d'Ari Halimi.
Et justement, qui de mieux pour nous parler maintien de l'ordre que maître Ari Halimi lui-même ? Soucieux de suivre le conseil de Melwen, nous nous sommes rendus à son cabinet dans le 17e arrondissement de Paris pour le rencontrer.
9h04, en gare de Paris Montparnasse.
Vous avez un rendez-vous ?
Oui.
Je m'appelle Ari Halimi, je suis avocat au barreau de Paris ainsi que vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Le maintien de l'ordre, c'est un champ qui est dévolu à l'État et qui consiste à maintenir l'ordre public dans le cadre éventuellement d'attroupements, dans le cadre de troubles à l'ordre public sur la voie publique précisément. Et donc ça s'applique, il y a un ressort géographique qui est celui de la voie publique et donc pas dans les maisons, pas dans les voies privées.
En général, ce maintien de l'ordre encadre principalement les manifestations. Vous vous souvenez du tournant de 2016 observé par l'Orlib ? Visiblement, les stratégies des forces de l'ordre ont aussi évolué à l'échelle nationale. Ari Halimi va jusqu'à parler de brutalisation du maintien de l'ordre. Ce terme, il l'emprunte à George Elmos dans son livre « De la Grande Guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés européennes ». L'auteur s'en sert pour qualifier une forme de déshumanisation dans la perception de l'adversaire pendant la guerre 14-18. En novembre 2019, lors de l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, Didier Lallement, alors préfet de police de Paris, dit précisément à une dame portant un gilet jaune la phrase suivante.
« Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. »
Pour Ari Halimi, cette phrase illustre très clairement la brutalisation.
Effectivement, il y a deux camps qui se font face, l'État contre les manifestants, contre la population qui revendique un mieux-être social. Et c'est l'une des prémices de la brutalisation, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une adversité, alors que le maintien de l'ordre, normalement, c'est un service public, et vous voyez, si on peut parler de dérive, c'est ça, c'est qu'il y a une dérive dans l'objectif du maintien de l'ordre.
Un avis partagé par Mathilde Larère, enseignante-chercheuse spécialisée dans l'histoire du maintien de l'ordre. Confortablement assise dans sa salle à manger, cigarette électronique à la main, elle revient sur les prémices de la reconnaissance d'un tel droit et sa mise en application actuelle.
Le gros problème, c'est que dans l'histoire, il n'y a pas eu de droit à manifester. C'est qu'il est super récent, le droit à manifester. Il est plus ou moins induit par les ordonnances qui suivent le 6 février 1934, les ordonnances des années 30, qui se mettent à poser les cadres d'une autorisation de la manifestation, ce qui présuppose qu'on l'accepte comme légitime. Et puis sinon, c'est des reconnaissances dans les années 90. La difficulté actuelle, c'est que, en fait, on est sur une répression maintenant. Et donc, on réprime ce qui, normalement, devrait exister de façon légitime et légale dans l'espace public. Il y a un changement très clair et donc une inquiétude démocratique par rapport à ce changement.
Toujours sur Canal B, vous écoutez « Que la force de l'ordre soit avec toi », un épisode de la série « Démocrache ».
S'il y a bien quelqu'un pour qui le maintien de l'ordre n'a pas de secret, c'est Laurent Bigot. Ce haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères a travaillé pendant 5 ans en tant que directeur de cabinet de préfet. À ce titre, il a supervisé des dispositifs de maintien de l'ordre. Ces dispositifs, il les a ensuite subis en tant que manifestant à partir de 2018, d'abord dans le mouvement des Gilets jaunes, puis dans les différentes mobilisations sociales qui ont suivi. Grâce à son double point de vue, il peut tirer des critiques objectives des stratégies utilisées. Nous l'avons rencontré à Paris, autour d'une boisson chaude.
Moi, je vais prendre un chocolat, s'il vous plaît.
Ah ouais, moi aussi.
Moi aussi.
Moi, je vais prendre une infusion citron, s'il vous plaît. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que j'ai été de l'autre côté de la barrière quand j'étais sous-préfet, donc c'est moi qui supervisais les dispositifs de maintien de l'ordre, et les consignes qu'on avait, c'était jamais de contact avec les manifestants, et toujours pratiquer la désescalade, c'est-à-dire toujours donner des instructions, des ordres pour que ça fasse baisser la tension. Et quand je me suis retrouvé manifestant, j'ai subi des dispositifs de maintien de l'ordre qui étaient tout le contraire. Ça allait au contact et c'était toujours la stratégie de la tension.
En Europe, la France fait figure d'exception avec l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les LBD. Seuls 3 pays continuent d'utiliser ces armes controversées, la France, la Pologne et la Grèce. Classés comme armes de guerre selon les normes internationales, leurs projectiles en caoutchouc, tirés à une vitesse de 350 km/h, peuvent causer de graves traumatismes, parfois mortels. Depuis mars 2019, on recense plus de 625 blessés par des tirs de LBD, 47 blessés graves et 29 mutilés ayant perdu l'usage d'un œil.
Est-ce qu'on est encore en démocratie quand on utilise des armes de guerre pour faire du maintien de l'ordre ? Ma réponse est non. Je pense qu'on doit faire du maintien de l'ordre en utilisant d'autres types d'armes que ça.
Pour ceux qu'on appelle les gardiens de la paix, la force ne doit être employée qu'exceptionnellement. Il existe tout un corpus juridique pour encadrer, mesurer et justifier son utilisation. C'est en tout cas comme ça qu'on avait briefé l'ancien sous-préfet.
Moi, à l'époque, on m'avait dit, il y a une hiérarchie entre les biens et les personnes. Les personnes, c'est beaucoup plus important que les biens. Donc si les manifestants cassent des choses et que vous considérez qu'il vaut mieux les laisser faire que d'intervenir parce que c'est trop dangereux d'intervenir, c'est pas grave, ce n'est que de la casse matérielle. Aussi condamnable, déplorable que ce n'est que de la casse matérielle. La philosophie a changé, puisque Darmanin, il y a quelques temps, il était encore ministre de l'Intérieur, il était auditionné, alors je ne sais plus si c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et il a dit « Je mets sur le même pied d'égalité les biens et les personnes. Nous devons protéger de la même manière les biens et les personnes. » C'est effrayant d'entendre ça dans un état de droit, c'est effrayant.
En manifestation, les dégradations de biens sont monnaie courante. Le cortège inclut parfois des éléments plus radicaux, comme les Black Blocs, qui s'en prennent aux biens publics ou privés, symboles du capitalisme ou d'un État répressif. Quels que soient les dégâts qu'ils peuvent causer, il apparaît légitime de s'interroger sur la hiérarchisation entre des violences qui visent des biens matériels et celles qui vise l'intégrité corporelle.
Recensement établi par le journaliste David Dufresne qui fait état de 364 signalements, 159 blessures à la tête, 18 éborgnés, 4 mains arrachées.
Le week-end a été extrêmement tendu entre policiers et manifestants. L'un d'eux est actuellement entre la vie et la mort. Les deux camps se renvoient la responsabilité.
Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
Entre une poubelle cassée, une vitrine cassée et un œil perdu, des gens qui ont, enfin, des mutilés, des mains arrachées. Enfin, à quel moment l'intégrité corporelle d'une personne humaine est à mettre à égalité avec l'intégrité corporelle d'une poubelle, quoi. Là où c'est problématique, c'est que c'est dissuasif. Parce que moi, je connais plein de gens qui ne vont plus aux manifs parce qu'ils ont peur des manifs.
La violence dissuade, donc les voix se taisent. Or, dans notre pays, il n'y a pas eu un progrès social qui n'ait été obtenu autrement que dans la lutte. Dès l'instant où manifester peut devenir dangereux, on s'assoit sur les principes de la démocratie. D'autres formes de violence entachent notre état de droit. Un exemple récent, l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes, alors que celles en soutien à Israël ont pu s'organiser sans problème. On assiste ici à une sorte de musellement qui menace et la liberté d'expression et le droit de manifester. L'ONU l'a d'ailleurs pointé du doigt en octobre dernier. Dans le droit international, une interdiction de manifester ne peut être envisagée qu'en dernier recours, seulement si l'ordre public est menacé. Cette idée laisse à penser que le maintien de l'ordre serait instrumentalisé par le pouvoir politique quand la manifestation ne va pas dans son sens.
Aujourd'hui en France, ce qui dysfonctionne, c'est que le dialogue social ne fonctionne plus, le dialogue institutionnel ne fonctionne plus, l'illustration de l'utilisation à outrance du 49.3 le montre, et c'est l'entièreté de la colère qui se retrouve dans la rue. Et là, le maintien de l'ordre, en fait, il n'est plus un des outils de l'état de droit et de la démocratie. Désormais, les forces de l'ordre sont le dernier rempart du pouvoir politique. En fait, leur seul objectif, c'est pas de maintenir l'ordre, c'est pas de maintenir l'ordre, c'est de décourager la contestation. Et là, on n'est plus du tout dans une logique démocratique. Parce que le maintien de l'ordre n'est pas une protection du pouvoir politique.
Vous disposez d'une armée de flics bien dressés, zélés. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les keufs tirent au flashbang, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Ce constat n'est pas du tout partagé par Steph Gillet, commissaire en charge du service départemental de la sécurité publique de Rennes. Il nous a reçus dans son bureau, à l'hôtel de police de la ville.
Appel en cours. En communication.
De police, bonjour.
Oui, bonjour. Nous sommes étudiants à Sciences Po Rennes. On a rendez-vous avec le commissaire Gillet.
Vous êtes
Comment?
Vous êtes combien?
Trois. Nous sommes trois.
Allez-y, je vous en prie.
Merci.
La police, elle est aux ordres du politique. Alors, quelque part, oui, puisque c'est le président de la République, le ministre de l'Intérieur, etc. Mais qu'on recevrait des instructions en disant là, cette fois, il faut pour cela, il ne faut pas les laisser, faut rien laisser passer. Tous les ordres. Pour cela, par contre, soyez souples. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. C'est un fantasme total. Par contre, des instructions qui nous diraient, attention, sur cette série de manifestations agriculteurs ou autres, on peut tolérer certaines choses. Hein, on peut tolérer un certain niveau de dégradation dès lors que ça peut être nettoyé, si on parle de projection. Par contre, si on commence à s'en prendre aux personnes, c'est tolérance zéro, quoi.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez « Que la force de l'ordre soit avec toi », un épisode de la série « Démocrache ».
Le maintien de l'ordre, si l'on prend sa définition première et exacte, peut être bénéfique pour la démocratie. Il permet de protéger le peuple et d'éviter que ses libertés fondamentales soient entravées. Mais dans les faits, il connaît de nombreuses dérives aux conséquences néfastes pour notre République. Il est violent, aléatoire et parfois instrumentalisé politiquement. Il a déjà blessé, mutilé, tué. Peut-on alors toujours considérer qu'il est légitime s'il ne remplit plus sa mission ? Doit-on repenser sa place dans nos démocraties ? Si certains ne les envisagent pas sans maintien de l'ordre...
Est-ce que selon vous, le maintien de l'ordre est nécessaire en démocratie ?
Oui, parce que la démocratie, c'est pas non plus le désordre. La démocratie admet l'ordre.
Certaines personnes considèrent que ce qui vient perturber le droit de manifester, c'est l'intervention des forces de l'ordre. Alors que, excusez-moi, mais s'il n'y a pas les forces de l'ordre pour justement permettre que la manifestation qui a fait l'objet de la déclaration avec un objet particulier, une thématique bien particulière, ne soit pas perturbée par d'autres personnes qui voudraient profiter de ce rassemblement pour commettre toutes les exactions qu'elles veulent, eh ben, la liberté de manifestation, je vois pas très bien où elle serait, quoi.
D'autres proposent de repenser complètement la société en invitant à réfléchir sur la nécessité d'un tel dispositif en démocratie. C'est le cas de Gwenola Ricordo, professeure associée en justice criminelle à l'Université d'État de Californie à Chico.
Si on pense et on réfléchit la démocratie dans une perspective plus émancipatrice, qui serait une démocratie dans laquelle il y aurait une réelle égalité entre les individus, une vraie possibilité de prendre des décisions en commun pour l'avantage de tous et toutes, je pense que fondamentalement, on n'a pas besoin de police, que la police est au contraire un ennemi dans le chemin vers l'émancipation, vers la construction d'une réelle démocratie.
Personnellement, est-ce que je fais un lien entre la démocratie et le maintien de l'ordre ? Pas forcément directement, hein. Je pense pas que la démocratie nécessite du maintien de l'ordre. Ça pourrait fonctionner sans, à mon sens.
Les travaux de Gwenola Ricordo s'inscrivent dans une perspective abolitionniste de la police. Depuis une quinzaine d'années, une critique radicale des institutions policières est née aux États-Unis. Elle prend racine dans l'idée qu'une bonne police ou une meilleure police est un mirage qui n'a pour seule fonction de légitimer l'existence de l'institution. Alors que pour certains, cette abolition devrait se faire étape par étape, d'autres, dont Gwenola Ricordo fait partie, pensent qu'il s'agit davantage de penser un projet révolutionnaire pour renverser les structures de domination actuelles.
Dans les faits, on voit que la police, elle est jamais du côté des luttes progressistes, des luttes émancipatrices. Hein. On voit que la police, elle est au service du maintien de l'ordre, à commencer par l'ordre capitaliste, mais aussi l'ordre racial, l'ordre patriarcal. Et à ce titre-là, je ne pense pas que la police puisse être mise au service en fait de l'émancipation, parce que je ne pense pas qu'il existe une bonne police, parce qu'il n'existe pas non plus de meilleure police.
Mais alors sans police, comment garantir la sécurité en démocratie ?
La sécurité, alors là, au sens où on l'entend généralement, elle est bien plus assurée lorsque, par exemple, les communautés ou les groupes sociaux sont riches, ils disposent de beaucoup de ressources, et c'est pas en fait lorsqu'il y a beaucoup de police qu'on est davantage en sécurité. Le préjugé, hein, comme quoi il y a une équivalence entre police et sécurité, est extrêmement puissant en fait pour légitimer l'existence de la police, sans jamais que soit questionnée en fait l'utilité, hein, et même la réalité en fait de ce lien.
Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément.
La question de la légitimité de l'existence du maintien de l'ordre en démocratie ne se pose pas qu'en France. Aux États-Unis, par exemple, la police tue en moyenne 3 personnes par jour. De quoi penser que la France n'est pas à plaindre. Mais pour Gwenola Ricordo, bien que la comparaison soit pertinente, elle n'exclut pas la nécessité d'un changement radical dans notre pays.
On a une police qui, en gros, est plus violente aux États-Unis. Mais je pense que c'est important de dire que ces différences, en fait, entre la police aux États-Unis et en France ou en Europe, ça ne disqualifie pas les critiques que l'on peut faire et qui ont été formulées depuis les États-Unis, parce qu'on n'a pas une différence de nature entre la police en France et la police aux États-Unis, on a des différences de degré.
A contrario, nos voisins anglais adoptent une approche beaucoup plus souple du maintien de l'ordre.
L'Angleterre, là, récemment, là, quand ils avaient eu des mouvements assez violents, hein, vous allez regarder les forces de l'ordre, ils n'avaient pas d'armes. À main nue, ils y allaient. Ils n'étaient pas habillés en Golgoth comme chez nous. Hein. Je pense que c'est le pays le plus proche de chez nous qui a une doctrine de maintien de l'ordre complètement différente. Je pense que l'Angleterre est un bon exemple de maintien de l'ordre, où ils ont fait un autre choix. Ils ont clairement fait un autre choix.
Est-il bon de comparer les méthodes et stratégies ? Peut-on se satisfaire de nos pratiques françaises ? Devrions-nous, au contraire, nous aussi nous caler sur le fuseau britannique ? Ou faut-il entièrement supprimer le système de maintien de l'ordre tel qu'il est ?
Ces questions ne trouvent pas de réponse simple.
Elles appellent un débat public approfondi où manifestants, forces de l'ordre, juristes et citoyens pourront croiser leurs perspectives.
Car c'est bien dans cet échange que réside l'essence même de la démocratie. Un espace de dialogue et de confrontation des idées, loin des tirs de LBD et des grenades lacrymogènes.
La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau.
Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi.
C'était « Que la force de l'ordre soit avec toi », le troisième épisode de la série « Démocrache » réalisé par Gilles Martel, Nicolas Thomas et Zoé Diraison.
Au cours de cet épisode, vous avez pu entendre différents extraits de reportages télévisés. Un extrait sur les Gilets jaunes, diffusé sur France 3 Bretagne le 26 janvier 2019. Un extrait sur la réforme des retraites, diffusé sur Euronews le 16 avril 2023. Un extrait sur les émeutes après la mort de Naël, diffusé par Le Figaro le 28 décembre 2023. Un extrait de C'est à vous, du 28 janvier 2019. Et un dernier diffusé par France 24, le 27 mars 2023. Vous avez également entendu une citation tirée du film Le Président de Henri Verneuil, des extraits du discours d'Emmanuel Macron et une citation de Didier Lallemand extraite d'une vidéo du Huffington Post datant du 20 juillet 2022. Pour la pause musicale, nous avons diffusé la chanson RPG Thérapie de Candeur Cyclone ainsi que des extraits de leur titre Poussière de décembre et Charlie. Vous avez aussi pu entendre des morceaux de Lucifer, d'A.G. Cook et de Shaw Kenath d'Oclou. Enfin, vous avez sûrement reconnu Hexagone de Renaud et Rakai de Kerry James. Merci à tous nos intervenants. Dans le prochain épisode, retrouvez Juliette Rigaud et Maxime Cormier pour le gouvernement.